Laurent Moraz, bonjour. Vous êtes historien, enseignant et conférencier. Alors, je viens vous voir aujourd'hui parce que vous allez justement parler d'une très grande figure qui était Suzanne Noël dans le cadre d'une exposition qui sera présentée à la médiathèque du Grand Auch. Alors déjà, le vernissage le 5 mars.
Oui, exactement, à 18h30. Un personnage important, oui, parce que c'est une femme extraordinaire. Elle a plusieurs chevaux de bataille. Elle se bat pour avoir une place en tant que chirurgienne à l'époque où c'est quasiment impossible.
Déjà, quand est-ce qu'elle est née?
Alors, elle est née en 1878 à Laon, dans l'Aisne, dans une famille bourgeoise. Elle se marie avec un médecin, ça l'intéresse, la médecine. Mais bon, elle se voit être infirmière, pas beaucoup plus. Et puis, son mari l'aide. Et puis, elle passe l'internat. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et son mari meurt assez rapidement. Il faut dire que cette femme a eu une vie personnelle excessivement triste. Elle aura une fille qui mourra très jeune. Elle avait deux frères et une sœur qui sont morts quand elle était jeune. Son père meurt quand elle a 6 ans. Enfin, elle a eu une vie personnelle très très compliquée. Et du coup, elle se bat un peu plus pour sa vie à elle et les combats qu'elle mène. Et c'est comme ça que, à force, elle met le doigt dans un engrenage qui l'emmène très loin. Elle va être chirurgienne et...
Parce que je vous coupe, mais l'internat déjà pour une femme, c'était exceptionnel.
Ah oui, exceptionnel. Mais l'époque est exceptionnelle parce qu'on est au début du XXe siècle et justement, il y a quelques femmes qui commencent à percer. Bon, Marie Curie est là. Elle travaille sur tout ce qui est radio pour la médecine et du coup, il y a quelques portes qui s'entrouvent, mais vraiment s'entrouvent. Il faut absolument qu'elle pousse fort la porte. Son mari l'aide à Suzanne et c'est comme ça. Elle s'appelle Suzanne Porta à l'époque. Et c'est comme ça que petit à petit elle avance. Et alors, événement, elle a deux coups de chance, si on peut dire. Alors, pour les personnes qui sont concernées, c'est pas franchement des coups de chance, mais pour elle, c'en est. Le premier coup de chance s'appelle Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt est la star internationale de l'époque et elle a fait un lifting, comme toutes les stars internationales de toutes les époques, et il est raté. La partie haute du visage marche très bien, mais la partie basse ne marche pas du tout. Et elle se permet, Suzanne, d'aller la voir. Elle est gonflée, elle y va, et en expliquant qu'elle peut essayer de faire quelque chose parce qu'elle travaille sur des lapins. Elle a opéré déjà une jeune laborantine qui a eu du produit qui lui a sauté au visage, et elle dit qu'elle peut essayer de rattraper. Et Sarah Bernhardt y va. Alors on a une époque où on opère sans gants. Avec des outils qui sont pas absolument pas protégés. Enfin, on est au début, hein. Mais elle accepte et le lifting marche très très bien, très très bien. Et ça fait un coup de pub gigantesque. Alors, elle n'aura pas un cabinet à elle, Suzanne, mais on commence à parler un petit peu d'elle. Elle travaille dans différents hôpitaux. Et c'est le deuxième coup de chance pour elle et pour le reste de l'humanité, c'en est pas, c'est la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, il y a les blessés de la face, notamment. Et donc ce côté chirurgie plastique, réparatrice, et qu'aujourd'hui on dit esthétique, va jouer un rôle gigantesque. Elle va opérer
Ce qu'on appelle les gueules
les
cassées.
gueules cassées, voilà, les gueules cassées, qu'à l'époque on appelle les baveux, d'un terme encore plus horrible. Elle les opère. On a une trace d'elle sur le champ de bataille près de Soissons, mais sinon elle opère à l'arrière. Et là, voilà, on se rend compte que la chirurgie esthétique n'est pas quelque chose de futile, que c'est quelque chose qui permet de redonner espoir, redonner de la vie à des gens qui ne voyaient que des gens en face qui détournaient le regard, qui n'avaient plus aucun avenir devant eux. Et elle le pousse, et c'est ça son deuxième gros cheval de bataille, concernant les femmes. Et c'est un peu là-dessus que l'exposition appuie particulièrement. Le combat pour les femmes, on est à l'époque des suffragettes, elles veulent voter, avoir une place, etc. Suzanne va faire une grève des impôts, signalant que bah, puisqu'elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, elles voient pas pourquoi elles auraient les mêmes devoirs que les hommes. Elle se promène sur son chapeau un petit papier qui dit « Je veux voter ». Elle fait comme ça toute une série de choses, et ces deux projets en fait vont se nourrir l'un l'autre. C'est-à-dire que bizarrement, on ne pourrait pas l'imaginer au départ, la chirurgie esthétique et le combat des femmes vers plus d'autonomie vont se servir l'un l'autre. Ça paraît paradoxal, mais pas du tout en fait, parce que eh ben avec un visage correct, jeune, refait parfois, ben, y a certaines femmes qui ont ben, plus de place, qui vont être embauchées, qui ne vont pas être mises au chômage, qui vont être ceci, qui vont être cela. Elles vont retrouver de la force, de l'importance sociale, à une époque où la manière d'être vue compte énormément.
Mais justement, est-ce que le gouvernement de l'époque a reconnu ce qu'elle avait fait sur les champs de bataille? Parce qu'elle est devenue une figure quand même connue.
Ouais, alors oui, non. Ça va être très lent parce que vu qu'elle a ces combats qui gênent un peu le droit de vote des femmes, la place des femmes, etc., elle va être contactée par un Américain dans les années 20, au tout début des années 20, pour fonder le club Soroptimiste, qui dans un latin approximatif veut dire les sœurs pour le meilleur, donc une sorte d'association de soutien aux femmes pour qu'elles disposent de leur destin et de leur corps. Alors ça, le gouvernement est très chaud pour le reconnaître. En revanche, son travail sur la chirurgie réparatrice, là oui, là évidemment. Et elle recevra en 1928 la Légion d'honneur, mais pour sa notoriété qu'elle apporte à la France, parce qu'elle va faire toute une série de conférences ici ou là. Elle va faire plusieurs fois le tour du monde. Elle va traverser 14 fois l'Atlantique. On est dans les années 20, hein, et pour faire justement des conférences pour montrer comment faire, etc., etc. Et elle parle dans un de ses combats, elle parle de l'autre combat, et en milieu de tout ça, elle parle de la France. Et donc c'est à ce titre-là qu'elle recevra la Légion d'honneur, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après, en 1936, elle se fait opérer de la cataracte, et du coup, elle pourra moins opérer. Elle l'opérera quand vraiment il faudra, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle opérera quelques personnages qui sont recherchés par la police de Vichy ou la Gestapo. Elle cachera le visage qui fait trop juif pour les antisémites. Voilà, et puis à la fin de la guerre, elle opérera certains déportés qui reviendront des camps. Donc voilà, ça, elle repartira là-dessus. Et elle meurt en 1954, le 11 novembre, c'est un signe, le 11 novembre 1954, donc elle meurt à 76 ans et elle est enterrée au cimetière de Montmartre, à Paris.
Alors, si on revient au côté opératoire, entre le début du siècle et évidemment après les années 40, il y a, j'imagine, un pas de géant en ce qui concerne les opérations, même ne serait-ce que l'anesthésie, le côté. Vous disiez qu'il n'y avait pas de gants, ça a dû radicalement changer.
Ah, complètement, complètement. Elle assiste et elle participe à ce mouvement de modernisation. Alors, dans son domaine, hein, l'esthétique et la chirurgie réparatrice, mais elle fait des gabarits pour que les personnes choisissent ce à quoi elles veulent ressembler après. Elle invente une sorte d'aspirateur à graisse pour le ventre. Alors, on n'est pas à liposuction, mais on est à la lipo-aspiration. Voilà. Donc, c'est vraiment. Et on voit petit à petit, il y a une bibliothèque à Paris qui s'appelle la bibliothèque. Bibliothèque Marguerite Durand, où il y a beaucoup de choses concernant le combat des femmes, justement, sur le féminisme. Et alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des photos, il y a des lettres, il y a ses écrits, il y a vraiment pas mal de documents. Mais les photos sont passionnantes parce qu'on voit Suzanne Noël jeunes commencer à opérer et on les voit main libre, tenant des voilà, scalpel, tout, comme ça. Et puis on la voit à la fin de sa vie, quand elle opère occasionnellement, et là on voit un chirurgien de nos jours, quoi. Et c'est la même personne, c'est la même personne. Et donc là on voit ça, donc elle assiste à ça et elle y participe.
Alors pourquoi aujourd'hui on ne parle pas assez d'elle? Est-ce qu'elle a inspiré d'autres femmes? Il y a peut-être des femmes plus connues qu'elle, mais elle, son nom est en fait inconnu.
Complètement, complètement. Alors, il faut être un peu spécialiste pour la connaître, parce qu'il y en a qui la connaissent. À Lens, vous avez des statues, vous avez une rue. À Paris, vous avez une rue. Pour nous, en Occitanie, il y a Toulouse qui a une rue, Suzanne Noël, et je me bats pour qu'on en fasse une ici, quelque part, dans le Gers, ce serait bien.
Peut-être une entrée au Panthéon.
Pourquoi pas. Le CNRS est en train de travailler, vous savez, tout autour de la Tour Eiffel, vous avez le nom de toute une série de savants, et ce sont tous des hommes. Et ben, y a un projet pour faire en sorte que 72 femmes soient notées juste au-dessus ou juste en dessous. Alors là, c'est l'éternelle querelle, est-ce qu'il faut mettre au-dessus ou est-ce qu'il faut mettre en dessous, le plus important, bon, voilà. Mais ce serait bien de faire une deuxième frise avec le nom, et le CNRS travaille là-dessus, propose 72 noms. Parmi les 72, il y a Suzanne Noël. Voilà. Donc elle s'appelle Noël. Je vous ai une petite explication. Son premier mari s'appelle Perta. Il meurt juste à la fin de la Première Guerre mondiale, et elle a un amant avec qui elle se marie juste après, qui s'appelle Noël, et qui va mourir de chagrin. Il va se suicider après la mort de leur fille, juste en 1924. Et voilà. Donc Suzanne Noël. Alors voilà. Elle est très très méconnue. Mais bon, il y a des opérations comme ça de temps en temps. Il y a eu deux bandes dessinées qui sont parues il n'y a pas très longtemps, qui sont vraiment, enfin c'est une bande dessinée en deux volumes, signée Leïla Slimani et Clément Oubrerie, qui s'appelle à main nue, et qui raconte la vie de Suzanne Noël, et qui une BD qui est vraiment très très bien faite. Donc voilà, on la retrouve comme ça petit à petit, mais elle est diluée totalement.
Donc, je vous rappelle une dernière fois, ça sera, donc, on vous retrouvera le 5 mars à 18h30 pour commenter cette exposition, et le public pourra venir aux heures de la médiathèque du Grand Auch jusqu'au 15 mars, découvrir cette personne qui mérite beaucoup plus d'être reconnue. Voilà, je vous remercie.
Avec grand plaisir, hein. Avec grand, grand plaisir.
Virginie Giry, bonjour, vous êtes depuis un an présidente de Sort Optimiste Auch Armagnac. Donc Laurent Moras nous a expliqué la figure de Suzanne Noël, son parcours, sa vie très riche. En quelle année Suzanne Noël a créé cette structure Sort Optimiste?
Elle a créé la première structure en 1924. Et après a été fondée en 1921 en Californie, un club exclusivement féminin qui ne compte pas moins de 95 000 membres à travers 120 pays.
Alors ici dans le Gers, vous êtes combien d'adhérentes?
Nous sommes 15.
Après le vernissage qui aura lieu donc le 5 mars à la médiathèque du Grand Auch, vous aurez la signature d'un partenariat avec la gendarmerie?
Oui, nous devons signer ce partenariat avec la gendarmerie afin d'avoir une salle réservée aux femmes victimes de violences.
Quelles sont les actions dans le Gers de Sort Optimiste Auch Armagnac?
Nous avons en action le Salon Talent de Femmes qui aura lieu cette année au mois de mai. Les fonds récoltés seront reversés exclusivement à une femme dans le besoin.
Parce que le principe de Sort Optimiste, c'est d'aider toutes les femmes, expliquez-nous.
Tout à fait. Notre but, c'est de mener plusieurs actions, et toutes nos actions, le bénéfice revient à une femme dans le besoin. Une jeune fille, une femme.
Précédemment, quelles actions vous avez faites? Je crois qu'il y a eu des concerts.
Oui, nous avons fait en décembre un concert avec le groupe Influence Gospel. Nous allons donner à Toulouse, l'Oncopole, un don de 2000 euros environ. C'est tout le bénéfice récolté lors de la soirée gospel.
Alors vous dites femme dans le besoin, qui cela concerne principalement?
Toute femme ayant des difficultés, soit dans la vie active, soit par un handicap. Nous les aidons aussi à se former. Nous avons aidé il y a 2 ans 3 jeunes filles du CFA, voilà, qui avaient besoin pour l'appartement, pour les études. Voilà, donc nous sommes là pour ça.
Alors je reviens à talent de femmes, c'est ça? Quand est-ce que ça aura lieu et qui sera sur ce salon?
Alors ça, cette année, le salon talent de femmes aura lieu le 30 mai.
30 mai?
Oui, le 30 mai. Voilà, il y aura des exposantes féminines.
Donc dans les milieux de l'art, qui seront-elles?
Alors il y aura des artisanes en couture, peintres, en céramique, en bijoux aussi. Il y a également une écrivaine qui vient.
Que font les adhérentes de Sœurs Optimistes?
On mène toutes nos actions en faveur des femmes. Voilà. Nous 15, ensemble.
Merci beaucoup.